8h16 sur Europe 1, votre invitée Sonia Mabrouk, c'est la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.
Bonjour Muriel Pénicaud.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Et merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Dans 5 jours, normalement, la France entamera un déconfinement progressif. Le dispositif massif du chômage partiel va se poursuivre. Est-ce qu'on a atteint, Madame la ministre, ce matin, un cap, très haut d'ailleurs, de 12 millions de salariés sous ce statut ?
Alors, ce matin, on a des demandes de près d'un million d'entreprises, 998 000, concernant 12 100 000 salariés. Donc, effectivement, je pense qu'on est proche, j'espère bien, du palier et qu'on va assister progressivement à une décrue du chômage partiel, en même temps qu'on aura une croissance de ceux qui peuvent retourner au travail et qui, ce faisant, vont aussi protéger l'emploi, protéger l'activité économique de demain.
Dans certains secteurs, avez-vous dit, Muriel Pénicaud, le chômage partiel sera maintenu à taux plein après le 1er juin. De quel secteur s'agit-il ? Hôtellerie, restauration, on l'imagine, à l'arrêt depuis mi-mars, mais encore ?
Oui, il y a certains secteurs qui, parce que leur métier même, c'est la convivialité, le brassage qu'on se rencontre, ne pourront pas tout de suite redémarrer. Donc tous ceux qui sont encore frappés d'interdictions administratives pour des raisons de santé publique, je pense à l'hôtellerie, restauration, mais aussi à l'événementiel, à d'autres secteurs proches, vont continuer à bénéficier du chômage partiel à taux plein le temps qu'il faudra et en fonction évidemment de la date où on pourra les réouvrir.
Pour les autres, Muriel Pénicaud, les entreprises vont contribuer au salaire. À quelle hauteur ? Vous avez dit que c'était dans des proportions raisonnables. Et qu'est-ce qu'une proportion raisonnable ?
Bien, on a mis en place en France, pendant le confinement, un chômage partiel inédit, massif, comme on n'a jamais fait, qui est le plus protecteur d'Europe. Le plus protecteur pour les salariés, parce que 100% de son salaire au SMIC, 84% au-dessus, on est le seul pays d'Europe à payer aussi haut, je dirais, la proportion de salaire. Et c'est l'État qui le paye, le ministère du Travail, qui paye les salaires. Mais du côté des entreprises, il est très protecteur aussi, puisque 100% de ces sommes sont remboursées aux entreprises jusqu'à 4,5 fois le SMIC. À partir du moment où le pays se remet en route, que le moteur économique repart, que des écoles, des transports se mettent en place, que la vie économique peut redémarrer, il est logique qu'à un moment donné, on accompagne toujours par le chômage partiel la reprise de l'activité, pour que ça soit pas brutal, mais qu'en même temps, progressivement, les employeurs qui peuvent ouvrir leur entreprise, qui peuvent amplifier leur activité, contribue. Alors ça sera raisonnable, nous ne l'avons pas encore décidé, nous l'annoncerons très prochainement, ça sera raisonnable et progressif. Moi mon but c'est clair, c'est de ne pas avoir de rupture. On a protégé massivement, maintenant pour protéger massivement, ce qui est le mieux c'est le retour à l'emploi. Et on va accompagner ce retour au travail par du chômage partiel, mais dont le remboursement aux entreprises sera légèrement diminué progressivement.
Justement, vous dites protéger. Le chômage partiel joue son rôle d'amortisseur social, mais à un moment, Muriel Pénicaud, des entreprises, des petites structures, à contre-cœur, bien sûr, vont licencier parce qu'elles seront complètement sous l'eau. Est-ce qu'il faut se préparer, malheureusement, à des prochains chiffres encore plus douloureux du chômage dans les prochains mois ?
Vous savez, si on n'avait pas mis en place ce chômage partiel massif et universel, puisqu'on a ouvert à des tas de catégories de salariés qui n'avaient pas droit, je pense que malheureusement, on aurait déjà des niveaux de licenciement qui seraient extrêmement élevés. Mm-hmm. Si je compare aux États-Unis, même à proportion relative, en un mois, c'est 30 millions de personnes qui ont perdu leur emploi aux États-Unis. Ça serait l'équivalent de 4 ou 5 millions en France. Donc cette phrase-là, je dirais, on a réussi à avoir un filet de sécurité massif qui protège les salariés, mais qui protège aussi les entreprises, puisqu'elles gardent leurs compétences. Maintenant, il y a un moment donné, je crois que c'est notre capacité, avec un esprit entrepreneurial, à tous y aller, en protégeant les salariés. On a toutes les conditions sanitaires pour le faire, mais à repartir sur le plan économique, qui va faire la différence. Et c'est ça qui évitera le plus.
On entend votre volontarisme.
Il y en aura forcément un peu, mais il y en aura beaucoup plus si le moteur économique ne repart pas.
Mais il y en aura malheureusement forcément un peu. Avec la reprise de l'activité, je voudrais vous faire réagir ce matin, Madame la Ministre, à une note de l'Institut Montaigne, qui reprend quelque part l'appel du MEDEF. Alors il ne s'agit pas d'un retour uniforme et généralisé aux 39 heures, mais l'Institut Montaigne qu'il faudra bien peut-être supprimer des jours de congé ou étendre des horaires pour les services publics. Est-ce que vous vous posez la question du temps de travail ? Est-ce que ces propositions peut-être vont venir sur votre table ?
Moi, ma priorité, c'est l'emploi. L'emploi, il y a aujourd'hui donc 12 millions de Français qui doivent pouvoir repartir au travail pour eux-mêmes et pour sauver l'économie et sauver l'emploi. Ça, c'est la priorité absolue. Après, quand tout va redémarrer, j'espère le plus vite possible, il y a peut-être des secteurs qui vont être en forte tension parce que ça fait deux mois, que l'activité n'est pas là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le problème du jour. Le problème du jour, c'est retour au travail et sauver l'emploi.
Mais je comprends les urgences. Malgré tout, est-ce que la question du temps de travail se posera et est-ce qu'elle pourra se poser dans ces termes-là en réfléchissant justement à une suppression peut-être d'un jour férié ?
Il y a déjà beaucoup de possibilités dans la loi, par la négociation. Moi, je reviens au dialogue social qui est pour moi le maître mot de la réussite de la reprise du travail. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans les branches et dans les entreprises. Par exemple, il y a déjà un quota de plus de 200 heures supplémentaires défiscalisées sans charge sociale qui existe. Donc, il y a déjà beaucoup de possibilités. On peut négocier une annualisation du temps de travail. Tout ça, avec le dialogue social, les entreprises qui ont un bon dialogue social, elles le font déjà. Elles aménagent déjà le temps de travail. Alors, utilisons déjà toutes les possibilités de la loi et du dialogue social. Mettons les conditions pour que chacun puisse repartir au travail en étant sécurisé sur le plan sanitaire. Et je crois que quand on aura fait ça, bien on verra que le paysage aura changé.
Alors, avec la reprise de l'activité, beaucoup d'employeurs, Muriel Pénicaud, redoutent de se voir condamnés pour une contamination de leurs salariés. Malgré des efforts pour protéger leurs employés, ils vous ont demandé via un courrier de sécuriser juridiquement leur situation. Que leur répondez-vous ce matin ?
Alors, c'est un débat que nous avons eu toutes ces dernières semaines. Ce que nous avons confirmé sur le site du ministère du Travail, ce que j'ai pu confirmer aux employeurs, c'est que la loi actuelle et la jurisprudence met déjà les responsabilités de façon très claire. Un employeur, il est chargé de veiller à la santé et à la protection de ses salariés. Il a une responsabilité dans ce domaine, notamment sur ce qui dépend directement de lui. L'organisation du travail, les outils de travail, le rythme de travail et de façon générale la gestion de l'activité. En ce qui concerne un risque qui est en plus pandémique, qui est donc dépasse complètement le monde du travail, il n'a pas d'obligation de résultat. Il a une obligation de mettre en place les conditions.
Oui,
et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pour ça que nous avons publié dimanche un protocole de déconfinement pour toutes les entreprises et que nous avons publié déjà une cinquantaine de guides par métier, parce que évidemment, comment on se protège quand on est coiffeur, caissière, chauffeur livreur, c'est pas la même chose. Donc une fois qu'on a dit ça, la jurisprudence le confirme. Donc il y a une partie de cette inquiétude qui n'est pas fondée en droit, je le dis.
Mais Madame Pénicaud, si un employeur...
Et après, il y a une inquiétude, et donc on est en train de regarder. Ah. Et l'idée, c'est quand même pas d'atténuer la responsabilité des
entreprises. Mais ils ne vous demandent pas d'être exonéré de cette responsabilité.
Éventuellement, la clarifier. On peut regarder. Donc, mais on ne veut atténuer les responsabilités de qui que ce soit, je pense, ne serait pas... Au moment où tout le monde doit être très responsable pour aider à repartir, je pense que ça ne serait pas un bon signal.
Mais en revanche, vous allez vers une clarification de la législation. Je prends juste un exemple. Si un employeur respecte à la lettre le protocole national de déconfinement du ministère du Travail que vous avez édité, il ne devrait pas logiquement encourir de sanctions pénales. Vous êtes d'accord ?
Alors, non, l'obligation, la responsabilité pénale, c'est autre chose. Ce dont vous parlez, c'est la responsabilité civile. Je ne vais pas rentrer dans le débat technique, mais je crois qu'on peut dire oui qu'un employeur qui respecte le guide métier qui s'applique dans son métier spécifiquement et le protocole de déconfinement, il y a tous les indices pour dire qu'il a complètement rempli son obligation de moyens.
Sauf que c'est laissé à l'appréciation du juge.
Et puis, plus important encore, il a protégé ses salariés, je dirais. On parle du débat juridique, moi je parle de la vie des gens. Le rôle de l'entreprise, c'est quand même de créer un contexte de travail où tout le monde est protégé. Certes, que ce soit juridiquement juste vis-à-vis des employeurs, mais que les salariés, eux, soient aussi dans des conditions où ils puissent repartir sereinement au travail. Parce que les employeurs eux-mêmes le disent, s'il n'y a pas les conditions de reprise psychologique du travail, ça va être très difficile. Et pour ça, il y a deux conditions, respecter les règles sanitaires que nous avons mis en place pour le monde du travail, et deuxièmement, avoir un bon dialogue social. Je crois qu'on en discute avec ces organisations syndicales, avec ces salariés, pour dire voilà comment on s'organise, tous ces sujets-là, eh bien, ils deviennent sans objet. Alors, on peut regarder ce qui permet de préciser, mais non pas de changer ou d'atténuer
la responsabilité. Mais vous allez probablement vers cette clarification de la législation, on vous a entendu. Muriel Pénicaud, vous encouragez depuis un certain temps un télétravail massif, au moins jusqu'à l'été, mais il faut l'encadrer, bien sûr, en fonction de la situation actuelle. Est-ce qu'elle est lancée, enfin, cette négociation entre partenaires sociaux sur ce sujet si urgent ?
Alors, c'est de leur ressort, ils ne l'ont pas lancé pour l'instant. Ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a 5 millions de Français qui travaillent en télétravail. Pour beaucoup, c'est une découverte. et en plus dans des conditions très particulières. Donc il y a des entreprises qui avaient déjà des accords négociés ou des chartes sur le télétravail, et où là ça se passe plutôt bien parce que c'est plus de salariés qui sont concernés, et tous les jours de la semaine au lieu d'un ou deux jours. Mais on savait déjà comment faire. Et puis il y a des entreprises et des salariés pour lesquels c'est entièrement nouveau. Et c'est vrai que le télétravail est fait quelquefois dans des conditions aujourd'hui qui ne sont pas tout à fait le télétravail classique. Quand vous avez les enfants en même temps qui courent partout, on est d'accord, c'est du télétravail dégradé qui ne peut pas durer indéfiniment. Mais il ne va pas non plus durer indéfiniment. En revanche, il y a beaucoup de gens qui ont découvert le télétravail et qui voient un certain intérêt en se disant, ben voilà, moi je n'ai peut-être pas envie de passer deux heures dans les transports par jour, je me concentre mieux, donc un équilibre entre les deux, le présentiel et le télétravail, pourquoi pas. Et depuis les ordonnances de 2017, c'est un droit. Mais ce n'est pas un droit à n'importe quelle condition. Par exemple, très important, il faut pouvoir se déconnecter. On est télétravail, ça ne veut pas dire disponible.
Il y a un droit à la 14
sur 24, 7 jours par semaine. Et donc, on va faire un guide. D'ici la fin de la semaine, nous éditerons parmi tous nos guides un guide spécial du télétravail à destination notamment des entreprises
au-delà du guide,
qui n'ont jamais pratiqué avant et qui ne savent pas trop comment l'organiser.
Bien sûr, est-ce qu'il faut un nouvel accord national surtout ?
Ben, une fois que le guide va rappeler tout ce qui existe déjà dans la loi et la réglementation, qui est déjà très important. Donc il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Et après, c'est la liberté des partenaires sociaux de savoir s'ils veulent aller plus loin et faire une négociation. La difficulté de la négociation, c'est le délai. Parce que les négociations, en général, mettent 4 à 6 mois. Donc c'est une problématique. Mais s'ils veulent négocier, bien sûr, ils pourront améliorer. On va déjà rappeler tout ce qui existe. Je pense que ça va sécuriser et les salariés et les entreprises qui... pour beaucoup, l'ont un peu organisé comme
bien
ça.
Bien sûr.
Et Muriel Pénicaud, n'avait pas tous
on
les
posera
éléments.
La question demain à notre invité qui est Laurent Berger, évidemment, sur le démarrage de cette négociation. On l'a compris que vous souhaitez. Je voudrais conclure sur un secteur particulièrement touché, la culture. Tout à l'heure, le président s'entretiendra avec des acteurs du domaine culturel. Les appels à un renouvellement automatique des droits au chômage des intermittents se multiplient et ils vous le demandent vraiment avec force. Est-ce que vous êtes favorable à cette année blanche ?
Ce qui est certain, c'est que le secteur de la culture, comme le sport, l'événementiel, l'hôtellerie et la restauration, fait partie des secteurs extrêmement touchés, puisque par définition, pour des raisons sanitaires que tout le monde comprend, eh bien, il a fallu interdire les festivals, les rencontres culturelles, et qu'en plus, la saison d'été et d'automne, c'est la saison où il y a le plus d'activités culturelles. Donc il est clair qu'il y a besoin d'une action forte en destination du secteur
culturel.
Donc vous êtes
favorable.
C'est pour ça que le président de la République a décidé de voir cette réunion ce matin, auquel évidemment Franck Riester, le ministre de la Culture, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, et moi-même participerons.
Madame
et donc,
Annie, je vous demande
c'est
si
le
vous
président
êtes favorable.
De la République qui annoncera les mesures qui seront retenues.
Et vous êtes favorable personnellement?
J'ai fait des propositions au président de la République et au Premier ministre, mais c'est le président de la République
qui décide. Merci Muriel Pénicaud d'avoir répondu à mes questions. Place aux auditeurs avec vous, Mathieu.